Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison, à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog futurchienguide.fr, avant de devenir, sans le savoir, les premiers épisodes de cette aventure de podcast Futur Chien Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur futurchienguide.fr. Alors, bonne écoute!
Bon, bonjour du coup Bernadette.
Bonjour Estelle.
Merci de me rejoindre du coup pour ce quatrième épisode, cette quatrième rencontre en tout cas pour mon blog Futur Chien Guide. Je suis très émue de t'avoir pour cet épisode puisqu'on est un peu dans la continuité de l'épisode précédent. On va le comprendre, on va pas vendre tout de suite la mèche, mais l'épisode précédent on parlait de Marie et de ses trois élèves et il se trouve que vous êtes très liés et pour un certain temps, voire pour une vie, tu vas nous dire tout ça. Est-ce que tu peux te présenter déjà, comment tu t'appelles, etc.
Donc, je m'appelle Bernadette. Je suis un peu atypique dans la mesure où, ayant eu ce qu'on appelait pudiquement une mauvaise vue toute ma vie, j'ai vraiment perdu la vue. J'avais 50 ans. Alors, à 50 ans, on pense soit que sa vie est fichue parce qu'on a perdu la vue, soit parce qu'on a des engagements familiaux importants. On se dit qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut rebondir et foncer. J'ai choisi ça, de rebondir. Et puis, ce qui m'a complètement remise sur les rails et qui m'a permis d'avancer, eh bien, c'est l'arrivée de mon premier chien guide. Donc, je suis à présent aveugle avec quelques perceptions lumineuses. Et totalement accro au chien guide. Mais alors, c'est ma liberté, c'est ma vie, c'est mon bonheur.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aussi au quotidien en dehors de ton lien avec les chiens guides ?
Donc, j'habite en grande banlieue à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai 5 enfants, nous avons 5 enfants, mon mari et moi, et 11 petits-enfants, dont 8 habitent dans un rayon de 8 km.
Quelle belle tribu !
Ça s'appelle une tribu parce que donc, nous nous réunissons quand même assez souvent. J'ai souvent des petits-enfants à la maison, bien qu'aveugles. Je ne devrais même pas dire bien qu'aveugle. En tant que grand-mère, j'ai gardé tous mes petits-enfants à partir de leur naissance, y compris les jumeaux. Mmh. J'ai apprécié les grelots de mes chiens parce que les jumeaux, ça ne part jamais dans la même direction quand ça marche à quatre pattes. Et donc, pour les repérer, je leur mettais des grelots aux pieds.
À tes petits-enfants.
À mes petits-enfants. Par contre, j'en mets pas à mes chiens parce que je trouve que ça fait trop de bruit. Exceptionnellement, pour les petits-enfants, c'était très bien. Et puis, toujours, j'ai été très militante et engagée dans plusieurs causes. Donc, mon mari et moi, on est très engagés. Lui, c'est les gens du voyage. Moi, c'était les étrangers en situation irrégulière, parce que j'ai une formation de juriste. J'étais écrivain public bénévole quand j'ai perdu la vie.
D'accord.
On m'avait proposé, de grosses associations m'avaient proposé de m'engager. Quand j'ai eu besoin d'appareils, un ordinateur adapté, une plage braille, etc., après ma réadaptation, tout le monde a trouvé que mon handicap était un peu lourd et que, là, maintenant que tu es aveugle, on ne va pas t'embaucher. Hein. Et donc, ça ne m'a pas plu.
D'accord.
Donc, j'ai monté mon entreprise d'écrivain public et j'ai eu les lauriers d'or de la GFIP, ce qui m'a fait très plaisir et beaucoup de bien.
La GFIP, en deux mots, tu peux nous dire ?
Alors, la GFIP, c'est un sigle que je ne vais pas traduire, mais c'est l'organisme qui perçoit les 6% de contribution, on ne va pas dire amende, de contribution des entreprises de plus de 20 salariés qui n'embauchent pas de personnes handicapées. Donc, normalement, chaque entreprise de plus de 20 employés devrait employer 6% de personnes handicapées. Beaucoup préfèrent ne pas embaucher de personnes handicapées et payer une contribution. Et cette contribution sert à adapter les postes de travail des personnes handicapées qui, elles, sont embauchées ou créent leur entreprise.
D'accord.
Donc, j'ai bien été aidée. Et d'avoir les lauriers d'or de la GFIP, ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. Et j'ai pris ma retraite à 65 ans. Je ne dirais pas mon âge, donc je ne dirais pas quand.
Il n'y a pas de problème.
Mais ça m'a fait du bien d'avoir un statut. En tant que mère de famille nombreuse, militante, puisque mes enfants remplissaient bénévole professionnel comme métier de la mère, Mais c'est possible de ne pas travailler quand on est bénévole et qu'on va bien. En tant que personne handicapée, j'ai absolument eu besoin d'avoir un statut de travailleur, même si j'étais travailleur indépendant. Et maintenant, je suis retraitée et pas sans emploi. Et pour moi, personne handicapée, c'est très important. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans mon premier chien guide, Paulus.
Alors justement, tu nous fais la transition. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton lien avec les chiens guides, notamment quand et comment ils sont rentrés dans ta vie? Est-ce que tu connaissais? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été naturel pour toi?
Alors, j'ai toujours eu des chiens de compagnie. Quand j'ai perdu la vue, j'avais ma petite meute de 3 whippets femelles. J'aime les chiens. Je connaissais les chiens guides, mais enfin, je savais que ça existait sans en avoir rencontré. En revanche, quand le troisième professeur de médecine m'a dit que ma cécité était définitive et qu'il n'y avait rien à faire.
Est-ce que tu te dirigeais avec une canne ou pas encore?
D'abord, j'ai su qu'il n'y avait rien à faire. Et comme j'y connaissais rien, j'ai contacté l'école de chien guide de Paris, où on m'a dit que j'étais bien gentille, mais que ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait d'abord que je me fasse réadapter.
D'accord. Quand tu parles de réadaptation, c'est...
Dans un centre, il y avait une liste d'attente, mais je me suis inscrite pour une réadaptation où j'ai appris l'essentiel de ce qu'on doit savoir quand on perd la vue, c'est-à-dire essentiellement ben, la locomotion, les gestes de la vie quotidienne, et j'ai choisi après d'apprendre le braille, qui est l'écriture normale des personnes handicapées visuelles. Donc j'y allais 3 fois par semaine, et pour avoir un chien guide, pour nous personnes handicapées, il est indispensable d'être autonome à la canne de locomotion, ce que je ne savais pas. Maintenant que j'ai fait cet apprentissage, c'est absolument évident. Parce qu'il faut être complètement autonome dans la rue avec une canne de locomotion pour pouvoir avoir un chien guide. Le chien, c'est le summum de la locomotion, mais ça ne remplace pas la canne, c'est autre chose.
C'est un autre binôme, enfin c'est, on dira pas un outil, mais un...
Ah ben non, justement, c'est pas un outil parce que la canne est un outil. Quand on dit à une canne de locomotion, donne-moi le métro ou trouve la porte, ça marche pas.
Ah non.
Et c'est la grosse différence avec le chien vivant et tellement vivant.
Tu es passé par donc ce stade de réadaptation, comme ça s'appelle, du coup. J'apprends ce mot, je le découvre.
Je déteste le mot de rééducation,
D'accord.
extrêmement répressif. Je préfère réadaptation. Je me suis adaptée à ma nouvelle vie sans la vue.
Ok. Et du coup, une fois que tu as fait cette réadaptation, tu as refrappé à la porte de l'école de chien guide de Paris?
Et oui, et donc j'ai quand même eu pas mal de chance parce que j'ai eu assez rapidement Paulus qui avait perdu son premier maître, qui était un golden retriever royal et majestueux de 3 ans et demi, que je l'ai eu en 2003.
Il se passe combien de temps pour essayer de comprendre entre le moment où bah, tu as le diagnostic un peu définitif, on va dire, côté visuel, et puis ce temps de réadaptation? Ça a pris combien de temps la réadaptation? Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte.
Ça a duré 1 an et demi parce que ça a duré à peu près 1 an, mais il y a eu 6 mois d'attente.
D'accord.
Parce qu'hélas, il y a une liste d'attente. Mais entre mon premier contact avec l'école de chien guide de Paris et l'arrivée de Paulus, j'ai eu de la chance. Il y a eu 3 ans et demi, ce qui est très peu. Du début de ma réadaptation à l'arrivée de mon premier chien guide, il y a eu 3 ans et demi. C'est vraiment pas beaucoup. À partir du moment où j'ai pas accepté d'être aveugle, on n'accepte pas. Le deuil du handicap et toutes ces conneries, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais le jour où j'ai décidé de vivre, ça c'est autre chose, il y a eu à peu près 3 ans et demi.
D'accord.
Comme le dit mon mari qui a été libéré, mon mari et mes enfants ont été libérés par l'arrivée du chien. Parce que j'avais beau savoir me servir d'une canne de locomotion, j'avais pas confiance en moi. Et le jour où j'ai eu Paulus, j'ai foncé. Je me suis retrouvée moi-même fonceuse.
Et tes enfants, ils avaient quel âge à peu près à l'époque? Enfin, sans distinction, mais...
Ils avaient entre 13 et 22. Mais mes enfants avaient besoin de moi et mon mari aussi. Et en fait, mon mari travaillant beaucoup à l'époque, il est ingénieur, enfin il est en retraite. Mes enfants avaient besoin de moi, ils n'étaient pas élevés. Mon mari avait besoin de moi, mais il travaillait beaucoup. J'avais des responsabilités et ça m'a beaucoup aidée. En revanche, j'ai toujours refusé que mes enfants ou mon mari me guident. C'est le chien qui me guide, hein. Je déteste tenir le bras.
D'accord.
Donc voilà.
Du coup, tu as fait donc 1 an et demi de réadaptation. Il y a eu un peu d'attente et dans l'attente, tu as pris la canne, j'imagine.
Oui, mais je sortais vraiment pour l'indispensable.
Ok.
Alors que le jour où j'ai eu Paulus, j'ai foncé, je suis sortie seule, j'ai repris le bus, enfin voilà. j'ai vécu.
Justement, comment s'est passée la rencontre avec Paulus? Parce que donc on imagine que tu as déposé la demande. La demande est un dossier assez complet hein, auprès des écoles. Hein.
Alors, en fait, ma rencontre avec Paulus, c'est qu'à chaque fois que j'allais à l'école pour déposer un dossier ou passer un examen, vers la fin, je croisais un magnifique golden qui réclamait des câlins. Parce que, en fait, avant d'avoir Paulus, j'avais fait sa connaissance parce qu'il était dans. Il était revenu à l'école après la mort de son maître. Il se baladait en liberté. Il n'était pas en boxe, il se baladait en liberté. Le jour où on m'a parlé de Paulus, je savais qui c'était et ça a été le coup de foudre. Mais à l'époque, donc j'avais des whippets, donc Paulus est venu et a rencontré mes autres chiens. Tout est fait dans le respect du vivant, de la personnalité de chaque chien. Il faut que ce soit une équipe qui marche. Donc dès le premier contact avec Paulus, ça a marché. J'ai su que c'était mon chien. Sans doute parce que je suis une mère de famille nombreuse. Le fait qu'il ait eu un autre maître avant moi, ça ne m'a pas du tout gênée. Et j'étais persuadée qu'il était capable de m'aimer et de me reconnaître comme sa maîtresse. Et ça s'est passé très rapidement.
Du coup, tu n'as pas eu forcément d'essai avec d'autres chiens. Pour lui, ça a été une évidence pour tout le monde.
Pour Paulus, je n'ai pas eu le choix. Ça a été sans problème, Paulus. Parce qu'à l'école, ils avaient bien vu que... J'avais pas assez confiance en moi pour avoir n'importe quel chien et qu'un chien de 3 ans et demi posé, c'était exactement ça qu'il me fallait.
Et du coup, c'était en quelle année, ça, Paulus?
En 2003.
2003.
Donc, voilà. Et donc, il m'a accompagnée jusqu'en 2010, où là, vraiment, il fallait qu'il prenne sa retraite. J'ai eu la chance de le garder en retraite à la maison. Mmh. Et j'ai eu Dakota, une flat coat complètement cinglée qui m'a réjoui le cœur et toute la famille, qui était un excellent chien guide. Par exemple, reste à ta place. Elle n'a jamais compris ce que ça voulait dire.
Elle était tellement pot de colle qu'elle.
Oh non, elle n'était pas pot de colle, elle était enthousiaste.
D'accord.
Elle n'était pas accrochée spécialement à moi, elle était accrochée à tout être humain vivant.
Et puis, c'est surtout que Dakota est arrivée, il y avait du coup Paulus à la maison?
Ah oui, et ça fait un bien fou à Paulus qui était vraiment fatigué. Donc, c'était Dakota est arrivée en 2010. Bon, là, pour le coup, j'ai un peu attendu entre mes deux chiens, mais donc j'avais repris la canne. Parce que comme je l'ai dit et je le redis, c'est complètement fondamental d'avoir une autonomie à la canne. Mmh. Paulus m'avait déjà suffisamment libérée pour que je prenne de plus en plus de responsabilités associatives. Mmh. Quand Dakota est arrivée en 2010, j'avais déjà des responsabilités à l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Mmh. Et pendant ma vie avec Dakota, dans le milieu associatif, quand on met le petit doigt, il y a le bras qui y passe. Et de ce côté-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. Donc Dakota, en revanche, était donc une flat coat très vivante, on va dire, mais excellent chien guide. Et c'est pareil, avec elle, j'ai appris à foncer encore plus, à n'avoir peur de rien. Mmh. Je refuse d'avoir peur. Et j'ai besoin d'un chien qui n'ait pas peur. Donc, c'est... Alors, Dakota, j'avais choisi entre Dakota et un autre chien. Et une fois de plus, ça avait été le bon choix. C'était Dakota qu'il me fallait.
C'était quoi qui avait fait la différence, entre guillemets, c'est par rapport à la symbiose que vous avez créée avec Dakota?
Le côté qui m'a plu immédiatement dans Dakota, je ne connaissais pas du tout les flat coats, qui sont des chiens très particuliers.
Oui, pour en avoir eu plusieurs, et notamment, je rebondis sur le fait que tu disais que Dakota était vraiment pleine de vie, qu'elle ne savait pas arrêter à sa place. J'ai aussi en relais une jeune flat coat, Nolka, qui, par son énergie, avait réussi à se faire un kyste au bout de la queue de par les trop énergiques mouvements qu'elle faisait avec sa queue. Et donc, à force de taper notamment le radiateur qui était près de sa place, un kyste s'était développé. Et donc, quand je l'avais eu, moi, elle était avec un pansement au bout de la queue, donc un pansement tout blanc. Et la plupart des gens me demandaient, c'est bien comme ça, les aveugles pourront la voir. Alors que c'est pas du tout l'objectif du pansement. C'était pas du tout l'objectif, mais beaucoup de personnes ont interprété que le pansement était là pour identifier l'arrière et la queue du chien. Une petite anecdote.
Il faut dire que les idées des valides sur ce qu'on est capable de faire, on pourrait en faire un gros livre. Mais c'est vrai que Dakota buvait la queue sans arrêt et dormait très très peu. Mm-hmm. Normalement, un chien, ça dort beaucoup. Mais en réunion, Dakota était toujours en éveil. Complètement sage, couché sous ma chaise ou sous la table, sans problème, mais la tête levée. Alors que mes autres chiens en réunion, ils posent leur tête et au bout d'un moment, il s'endort, Mara en particulier. Dakota avait besoin de très peu de sommeil, mais par contre, effectivement, elle avait une queue très musclée. On a vécu des choses formidables avec Dakota. Aussi bien donc avec la famille d'accueil de Paulus, là c'est un peu à l'aparté, que avec la famille d'accueil de Dakota, je partais du principe qu'il fallait que je les rencontre et qu'ils avaient bien le droit de voir le chien qu'ils avaient aimé. Le gros drame de Dakota, c'est que en mai 2018, elle s'est mise à boiter. Mmh. Donc j'ai été chez le vétérinaire qui a senti une tumeur, qui lui a immédiatement fait passer une échographie. Et parce que moi, je me suis dit, bon, elle a 9 ans, je me suis dit que elle avait droit peut-être à un petit peu d'arthrose. Bon, et c'était une tumeur maligne. Et quand on a reçu les résultats de la biopsie, le diagnostic était définitif, cancer fulgurant du flat-coat. Mm. Et elle nous a quittés en un mois. Alors que vraiment, je n'étais pas du tout préparée. Ça a été très, très, très dur. Vraiment très dur. Mes petits-enfants étaient très attachés à ce chien. Une de mes petites filles, qui était la plus proche de Dakota, m'a dit... si t'es un autre chien, je le détesterais. Mm-hmm. Donc je lui avais expliqué que un chien guide, c'était pas un chien de compagnie, c'était un chien de travail. Alors surtout pas un outil, hein, mais un chien de travail que j'en avais besoin. Et elle m'avait dit quand même bon. Et bon, c'est elle qui est là ce soir à la maison, et c'est pour ça que je n'ai pas Mara à côté de moi, parce que Mara préfère nettement être avec Natacha qu'avec moi.
D'accord. Donc finalement, la vie a un peu évolué, mais c'est vrai qu'elle avait un... Enfin, j'imagine qu'il y a eu Paulus aussi. Paulus n'était plus forcément là non plus en 2018.
Paulus, ils étaient tous plus jeunes et ils avaient surtout connu Dakota. Mm-hmm. En fait, mes petits-enfants ont fait quelque chose de beau. Donc, je les ai prévenus que Dakota était partie au paradis des chiens, comme on dit entre nous, au maître de chien guide. Mm-hmm. Ils m'ont dit qu'ils exigeaient, je ne suis pas toujours la maîtresse chez moi, qu'ils exigeaient que je fasse incinérer Dakota. Mmh. Donc, nous avons fait incinérer Dakota et nous avons organisé une cérémonie pour semer ses cendres dans le petit bois d'à côté où elle jouait avec eux. Et ils avaient préparé des poèmes et des chansons.
Oh.
Et ça nous a tous aidés à laisser partir Dakota, la grande chérie. Et parce que c'est encore plus dur de perdre un chien brutalement que de perdre un vieux chien en fin de vie. Mmh. Et on a vécu ça mais en famille parce qu'on est un peu tribu. Et donc, oui, on a vécu ça en famille. Et ça m'a fait du bien aussi qu'il m'accompagne dans le départ de Dakota.
Oui, ça a dû adoucir les choses. Et puis leur initiative, en tout cas, alors d'exiger, comme tu dis, l'incinération, mais surtout de faire une petite cérémonie a dû aussi aider...
Oui, ça nous a tous aidés, on a bien pleuré, forcément, j'en ris maintenant, mais on a tous pleuré dans les bras les uns des autres, et ça nous a aidés à attendre, et ça a été très vite, parce que donc, au mois de juillet 2018, l'école de chien guide de Paris m'a proposé un nouveau chien, donc j'ai eu le choix entre deux chiens, un labrador complètement classique, et un croisé labrador flat coat. Mm-hmm. Tout le monde m'a laissé libre parce que j'avais dit a priori que je voulais de nouveau un flat coat. Et puis, en rencontrant les deux chiens, je me suis dit qu'il ne fallait pas comparer et qu'il fallait que je change. Mm-hmm. Et donc, j'ai choisi le labrador. Et qu'est-ce que j'ai eu raison? Parce que c'était Mara. Mm. La belle, la magnifique Mara.
Du coup, tu as eu trois races de chiens différentes.
Oui, complètement. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que mes chiens sont de plus en plus petits. Au début, donc j'avais besoin d'un très grand chien, puisque Paulus était un golden majestueux, comme on n'en fait plus, avec plein de poils, un jabot de lion, bon, magnifique. Dakota était une superbe flat coat, mais qui était quand même très haute sur pattes, parce que les flat coats, c'est beaucoup plus fin que les golden et les labrador. Mm-hmm. Et donc, elle faisait 33-34 kilos et mince. Et Mara en fait 28, elle est nettement plus petite, mais mince, parce que donc, je fais très attention à sa santé, étant donné que Mara a été opérée d'une dysplasie de la hanche. Donc, il n'y a pas beaucoup de chiens qui sont opérés. Mara a été opérée parce qu'elle avait d'énormes qualités de chien guide. Et je suis absolument confiante. Bon, je fais très attention. Elle n'est pas grosse. Je lui donne des compléments alimentaires. Elle court, mais elle ne saute pas. Enfin bon, je fais très attention à ses hanches. Pour le moment, tout va bien. Donc, c'est un petit nuage au-dessus de notre avenir à toutes les deux qu'elle ait été opérée d'une dysplasie.
L'opération permet pas justement de d'anticiper les problèmes.
Ben, ça a quand même un risque d'arthrose précoce. Pour le moment, tout va bien.
D'accord.
Donc, je la surveille de près, le vétérinaire aussi.
Comme nous avait raconté Marie, du coup, qui a été sa famille d'accueil, dont tu vas nous parler,
Voilà, on va le dire.
il est vrai que donc elle avait été opérée et Marie nous racontait qu'elle était en convalescence à l'école et qu'elle avait la grande joie de pouvoir aller la voir régulièrement, en tout cas.
Oui, parce que donc, on va le dire, Mara, c'est la Mara dont parle Marie. Qui a été sa famille d'accueil, que je rencontre avec bonheur. Et donc, voilà, on a fait des choses formidables avec Marie en particulier. Bon, elle en parle quand tu l'as interviewée. On a passé une journée avec Mara dans son école parce que, bon, c'est un sujet qui m'est cher. C'est très, très important pour moi d'avoir des relations avec les familles d'accueil de mes chiens.
Ça, c'est quelque chose que tu as toujours souhaité?
Dès que j'ai eu Paulus, j'ai dit, bon, ben, comment dire à sa famille d'accueil que Paulus va bien, qu'il a une nouvelle maîtresse. Et donc, surtout il y a plusieurs années, c'était pas la politique de l'école qui ait des contacts parce que le chien saurait plus où il en était. Donc, le chien, il a le droit d'aimer qui il veut, sa famille d'accueil, son éducateur. Ben, bon, et ben, son maître, c'est son maître. Donc, moi, j'ai aucun problème, Mara m'aime comme je l'aime et on est, alors j'aime pas le mot fusionnel, mais disons qu'on est très 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 attachés l'une à l'autre. Mais en revanche, elle a le droit d'aimer qui elle veut, comme moi je peux aimer qui je veux, y compris le Whippet de ma sœur, Eldo, qui est un des grands copains de Mara. Mais sans les familles d'accueil, nous n'aurions pas nos chiens. Sans l'amour que les familles d'accueil portent à nos chiens, ils seraient pas aussi équilibrés. Moi, je trouve ça normal de les rencontrer. Et je crois que Marie, ça lui fait du bien de voir Mara. Mara, ça lui fait du bien de voir Marie. Et moi, j'aime Marie. Donc, tout va bien.
C'est vrai que c'est quelque chose que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marie, hein, pour ma part. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Quand le départ en éducation de Mara s'est profilé, elle a voulu être, elle a voulu avoir un peu des témoignages des uns et des autres, d'autres familles d'accueil en tout cas, pour avoir de l'information et puis savoir comment on survivait entre guillemets au départ en éducation de son premier élève chien guide. C'est vrai que quand on a construit donc ce groupe de loisirs, en tout cas des familles d'accueil, qui n'est pas du tout là pour remplacer le travail magnifique que font l'école, les moniteurs et les éducateurs, c'est aussi quelque chose qu'elle avait en tête. C'était est-ce que le bénéficiaire, est-ce que le déficient visuel qui va avoir Mara un jour, le ou la, va vouloir être en contact avec moi? Et ça, c'était quelque chose qui était parmi ses plus grands espoirs. Et je crois d'ailleurs que c'est comme ça qu'on est rentré en contact, toi et moi.
Oui, sur un site de discussion sur Facebook.
Je te suivais sur Twitter, je crois. Alors, je sais plus exactement pourquoi. J'avais sûrement repéré que tu parlais parfois de chien guide ou que
Ah, pardon.
tu reliais des choses de l'ANMCGA
Oui.
ou de l'ANM chien guide, comme on dit maintenant.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que voilà, quand j'ai vu, il me semble que j'ai vu une photo de Mara. C'est ce qu'on disait avec Marie la dernière fois, qui s'éclatait. Donc, c'était, je pense, pendant vos premiers week-ends de rencontre avec Mara, puisque elle. Mara te guide pas forcément le premier jour où tu la rencontres.
Non, surtout qu'en fait, c'est pour ça que nos relations avec Mara ont été très fortes dès le départ. C'est qu'en fait, j'ai fait ma remise en août avec elle, mais je l'ai eu 3 semaines comme chien de compagnie en juillet. Quand la remise n'est pas faite, le chien n'a pas le droit de guider, le maître n'a pas le droit de lui mettre un harnais. Mais je l'ai eu pendant 3 semaines comme chien de compagnie. Mais c'était un chien de compagnie tellement exceptionnel qu'elle m'a un petit peu guidée à la laisse. Mais je ne lui ai pas mis de harnais, j'ai respecté mes engagements. Et donc, elle avait vécu 3 semaines avec moi avant la remise officielle. Donc, ça crée des liens pas possibles. Hein. C'est beau, c'est chouette. J'ai beaucoup aimé ce temps gratuit de rencontre avec elle. Parce qu'il n'y avait pas de lien de travail, c'était tout beau, tout chouette.
Et après, le lien de travail s'est construit très naturellement sur cette base.
Et complètement, parce que oui, là, un de mes grands moments, mais je sais que c'est pas maintenant qu'il faudrait que je le dise, mais donc j'ai eu 3 semaines Mara, Ensuite, je suis partie une semaine en vacances avec le reste de ma famille. Et donc, j'ai rendu Mara à l'école parce que je pouvais l'avoir chez moi, je ne pouvais pas l'avoir en vacances. J'ai complètement trouvé ça normal et compris. Ensuite, donc, au bout de cette semaine-là, ça a été mon entrée en remise. Quand je suis arrivée à l'école de chien guide, bon, c'est à Buc parce que comme j'habite dans le coin, la remise s'est faite à Buc. Mara m'a fait une fête dingue. Elle m'a sauté dessus alors que d'habitude, elle ne saute pas sur les gens parce qu'elle est très, très bien élevée. Elle était tellement contente de me revoir que c'était évident que c'était mon chien et que j'étais sa maîtresse. Immédiatement, le rapport travail s'est greffé sur le rapport affectif que j'avais déjà avec ce chien. C'est une grande affective, ma Mara chérie. L'équipe d'attribution, c'est choisir le bon chien parce que c'est vraiment Mara qu'il me fallait. Avec Mara, ça s'est forcément bien passé parce que c'est vraiment un chien qui avait envie de travailler. Elle se précipite sur son harnais. Au début du confinement, elle allait devant son harnais, elle s'asseyait. Manifestement, elle me disait, non mais qu'est-ce qui se passe? On sort plus, on travaille plus. Bon. C'est un chien qui aime travailler. Mais c'est mon troisième chien guide et c'est mon troisième chien aimant travailler. Le chien, il a envie de travailler pour faire plaisir à son maître, pour sortir. Bon, ils sont pas gagnés, hein. Ils aiment sortir. Ils aiment voir des choses nouvelles, des expériences nouvelles. Ils sont curieux, nos chiens. C'était une remise un peu spéciale qui s'est très bien passée. Puis donc à la fin de la remise, donc qui doit durer 2 semaines, on a été à Versailles, à Paris. Parce que donc, dans la mesure où, avant le confinement, j'allais moi 3 fois par semaine à Paris, donc il fallait que je connaisse la gare Montparnasse par cœur.
Donc Mara aussi.
Donc Mara aussi, y compris donc la ligne 6 et la ligne 13. Mais Mara est extraordinairement intelligente et puis ça m'amuse. Donc quand j'arrive à Montparnasse, je lui dis métro, donc on descend dans le métro. Selon l'endroit où je vais, c'est-à-dire selon si je vais au CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, ou si je vais au CFHE, donc c'est pas le même métro. Et ça m'amuse beaucoup de dire très fort 6 ou 13, parce que les gens se demandent si Mara sait compter. Non, Mara sait pas compter. Par contre, si on donne un nom à un lieu, le chien, il comprend, il s'en fout que ce soit 6 ou 13. Elle me conduit sur le quai de la ligne 6. 13, elle me conduit sur, et là c'est beaucoup plus long, sur le quai de la ligne 13. Et à chaque fois, ça m'émerveille qu'elle sache faire ça.
Les gens pensent du coup qu'elle sait compter alors que c'est une sonorité, un mot qui est associé à un lieu pour elle.
Oui, je pourrais lui dire cacahuète. Elle me conduirait à la ligne 13 si je lui avais appris que cacahuète, c'est la ligne 13. Et puis je crois que ça l'amuse autant que moi, parce qu'elle remue la queue, elle est contente. En fait, elle est toujours contente, Mara. C'est un chouette chien. Mara anticipe beaucoup de choses, mais elle a du mal à anticiper la personne qui va pas se pousser quand on arrive. Parce qu'on a tellement l'habitude, toutes les deux, que les gens se poussent pour nous laisser passer. Quelquefois, mon mari, quand on sort ensemble, il est un petit peu en retrait pour pas gêner Mara. Et il rit en me disant, mais tu te rends pas compte du nombre de gens qui se sont poussés pour vous laisser passer? Non, je m'en rends pas compte parce que les gens se poussent et c'est pour moi c'est naturel, il n'y a personne, il n'y a pas d'obstacle. Parce que quand les gens disent à un aveugle guidé par un chien, attention, il y a un obstacle, attention, attention, je dis non, mais pour nous, il n'y a pas d'obstacle. Je m'en fiche qu'il y ait des poubelles, donc ça m'énerve. Mais je ne rentre jamais dans une poubelle sur un trottoir parce que je suis Mara qui fait un écart. Mara, elle évite. Elle évite tout, mais en revanche, quelqu'un qui arrive en face de nous et qui va pas se pousser, le chien a du mal à anticiper les mouvements rapides. Et donc là, pour le coup, de temps en temps, je me prends quelqu'un en pleine poire. J'ai retrouvé ma liberté, je me suis retrouvée moi-même. Avec chacun de mes chiens, j'ai retrouvé une part de moi-même. Finalement, je vais finir par être complète.
Bon, mais en tout cas, vous avez l'air de vivre en symbiose. Tu n'utilises pas forcément le mot fusionnel, parce que quand même, ça reste un chien et toi une personne, et etc.
Oui, puis j'aime pas les relations fusionnelles parce que chacun doit garder sa personnalité en fait. Symbiose me plaît bien. Oui, c'est en fait ça. On s'entend tellement bien que on se comprend, on se prédit, on prévoit ce que l'autre va faire. Donc c'est beau, c'est bon.
Et justement, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager particulièrement, quelque chose qui te tient à cœur?
Chaque sortie avec un chien guide est un bonheur. Et à chaque fois, c'est très important pour moi de dire merci aux familles d'accueil. Quelquefois, on dit ah, la reconnaissance, ça fait charité, etc. Non, pas du tout. Dire merci, c'est mettre un peu de soleil dans la vie. Bon, mes enfants, mes petits-enfants ont toujours utilisé les mots magiques, moi aussi. Merci, c'est merci pour la solidarité qui fait que de la naissance d'un chiot jusqu'à la fin de la vie d'un chien guide, c'est une magnifique aventure. Sans les familles d'accueil, ce serait pas possible. C'est du positif, c'est du beau, et c'est pas de la dépendance. Tu as dû entendre, je suis très indépendante. Que maintenant, donc, effectivement, je fais partie d'un certain nombre d'associations ou d'institutions, y compris la Commission des droits de l'homme. Je ne défends pas spécialement le handicap, bien que, en tant que personne handicapée, je connais les discriminations, les rejets, les exclusions et tout ça, parce que c'est pas facile d'être aveugle, ça c'est un autre sujet. Mais en revanche, voilà, Dakota d'abord, Mara maintenant, ce sont des ambassadrices formidables de l'autonomie des personnes aveugles, et donc la présence de mes chiens. Successivement, pas ensemble. C'est une manière de reconnaître aussi l'autonomie, la dignité des personnes handicapées aveugles. Et donc, pour moi, c'est important aussi la présence du chien guide partout. C'est magique, c'est que ça change le regard des gens sur le handicap visuel. Quand je me paume dans le métro et que je me mets au milieu en disant, y a-t-il quelqu'un de gentil pour m'indiquer telle direction? Il y a toujours quelqu'un de gentil pour m'indiquer la direction. C'est pareil, quand je reviens du métro, que je suis à la gare à la gare Montparnasse, Mara, comme Dakota, connaît le mot panneau. Elle a appris panneau, donc elle me conduit au panneau, que je ne peux pas lire, et Mara non plus. Et je dis avec le sourire, parce que le sourire, ça aide. Y a-t-il quelqu'un de gentil pour m'indiquer le bon quai pour Saint-Quentin-en-Yvelines? Il y a toujours quelqu'un de gentil. En fait, finalement, bon, globalement, les gens sont plutôt gentils, hein. Ceci dit, Mara est un amour. Donc, pour compléter ce qu'a dit Marie, Mara n'aboie toujours pas. Depuis 2 ans que je l'ai, elle aboyait une fois parce que mes petits-enfants lui disaient d'attraper le ballon, et le ballon, c'était une montgolfière dans le ciel. Donc, ça a un petit peu énervé Mara qui n'arrivait pas à attraper la baballe. Et elle a fait ouaf une fois.
Non, c'est vrai que moi, quand je l'ai rencontrée, du coup, Mara, elle était encore en famille d'accueil avec Marie. C'était pas les premiers mois, on s'est connus un petit peu sur la fin de sa période en famille d'accueil avec Marie. Et après, nous, on s'est recroisés notamment à l'Assemblée générale, je crois, de l'école l'année dernière.
Oui, il y a une méchante qui essaye d'ouvrir la porte parce que je ne lui ai pas appris, mais elle sait ouvrir la porte. Alors, je vais ouvrir à Mara. Et Mara, tu vois, ça y est, t'as fini de jouer? Oui, t'es belle. Elle a abandonné Natacha pour sa maîtresse. Bon, tu peux pas la voir, mais elle remue la queue, et elle a mis sa tête sur mes genoux. Mara est un gentil chien, c'est fou.
Et c'est vrai que du coup, quand je t'avais rencontré la première fois, donc pour l'Assemblée générale au printemps, ça avait été très chouette de la voir et avec son harnais en vrai. Et c'est vrai que ensuite, on s'est recroisés à la journée porte ouverte et avec le fameux instant où on a fait la photo pour Marie,
Oui.
la photo dont elle rêvait tant et elle m'en avait tellement parlé.
C'est vrai que ça avait fait plaisir à Marie, mais c'était chouette et j'étais contente que Marie soit contente.
C'est quelque chose dont elle m'a parlé depuis très longtemps et c'est vrai qu'à ce moment-là, lors de la journée porte ouverte, elle m'avait redit ah, mais il y aura Mara, mais il y aura les trois. Nolly était en éducation, enfin comme on l'a dit dans l'interview avec elle. Et c'est vrai que je lui ai dit bah on essayera et voilà, on a pu demander l'autorisation de sortir Nolly du box et c'était vraiment très chouette. Et oui, cette photo, enfin, j'ai mis en photo à la une de son article, c'est vraiment un grand moment pour elle. Et justement, est-ce que avec l'un de tes trois chiens guides, ou les trois, ou peut-être seulement deux des trois, tu as eu un grand moment de honte ou d'embarras par rapport à eux?
Alors, c'est avec Dakota, c'est un peu proche de ce que Mara a pu faire subir à Marie, mais Dakota a fait bien pire. C'est-à-dire que, alors qu'elle était au harnais en train de me guider, elle a gobé au passage le pain au chocolat d'un petit garçon qu'elle a croisé. Elle a fait ça au harnais. Donc, le gamin a hurlé, j'ai sursauté, j'ai eu très peur, j'ai touché Dakota. Et j'ai senti qu'elle déglutissait parce que je crois qu'elle a dû battre ce jour-là le concours de vitesse d'avalage de pain au chocolat. Et alors, j'ai eu une chance folle, c'est que la maman a ri. parce que j'en étais malade. Évidemment, je lui ai proposé de rembourser le pain au chocolat. J'ai essayé de consoler le petit garçon parce que c'était impensable dans ce cas-là de faire asseoir Dakota pour qu'un enfant puisse la caresser, n'est-ce pas? Elle était beaucoup trop remuante.
Parce que du coup, c'était dans la rue? Enfin, comment ça s'est passé? Ou c'était dans un parc?
Non, non, c'était dans la rue, sur un trottoir dans notre petit centre commercial, mais vraiment. Donc la maman devait sortir tout simplement de la boulangerie. Elle venait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit que non, j'avais pas à rembourser et qu'elle allait retourner en acheter un. Hein. C'est dingue, j'avais Dakota, oh oui, c'était en 2012, je l'avais depuis 2 ans, qu'elle me fasse un truc comme ça au harnais, là c'est la honte totale. Hein. Et bien, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle a jamais recommencé un truc pareil. Enfin,
C'était à sa hauteur, c'était sur le passage.
je pense que c'était complètement sur son passage à sa hauteur. Enfin, ça ne pardonne pas la grosse bêtise qu'elle a faite. En revanche, les moments de bonheur avec mes chiens, les moments où j'étais fière, bah si, on va prendre le dernier. Donc, je fais les visites d'accessibilité parce que je fais partie de la commission départementale d'accessibilité des Yvelines. On a fait donc les visites de sécurité et d'accessibilité. Bon, moi, d'accessibilité, mon grand plaisir, donc un énorme centre commercial de 40 boutiques, 13 restaurants, etc., à plaisir, qui est dans les Yvelines, pas très loin de chez moi. Pour les personnes handicapées, en cas d'incendie, il y a un lieu où on doit se mettre en attendant les secours. Dans ce lieu-là, il se trouve qu'il y a un interphone, mais que ces lieux de mise à l'abri, c'est jamais 2 fois la même forme. Comme je suis une râleuse, j'ai dit oui, mais les personnes handicapées visuelles, si elles sont seules, elles trouveront jamais l'interphone. Et bon, une des personnes avec qui je fais régulièrement les visites m'a dit, mais comment Mara peut pas te trouver les interphones? Je lui ai dit, bon, écoute, on va essayer. Donc j'ai pris une croquette, on m'a indiqué l'interphone, j'ai tapoté sur l'interphone avec la croquette en disant à Mara, assise, regarde, interphone, et puis j'ai donné la croquette. On a été dans la protection suivante qui n'avait pas du tout la même forme. J'ai dit à Mara, donne-moi l'interphone. Elle s'est assise devant l'interphone qui n'était pas du tout au même endroit, elle a eu une deuxième croquette, et comme ça, elle en a fait 3 à la suite. Le lendemain, on est retourné pour faire des visites supplémentaires. Et maintenant, Mara trouve les interphones. Je suis tellement fière d'elle.
Du coup, elle apprend et elle apprend toujours.
Oui, elle est tellement contente. Bon, la croquette, c'est la croquette, mais c'est Mara, t'es géniale. Mara, je suis fière de toi. Enfin bon, c'est un peu l'explosion de joie. La croquette, je crois qu'elle s'en passerait. Bon, je lui donne quand même. C'est dingue à quel point les chiens aiment apprendre, mais toute leur vie. Dakota, c'est pareil, elle a appris des choses nouvelles jusqu'à la fin de sa vie. C'est tellement amusant de leur apprendre.
Ils sont tellement désireux
Oui.
d'apprendre, hein. Ils ont une soif d'apprendre.
On continue à faire des choses nouvelles. Puis alors, ce qui est incroyable, c'est que Mara, elle a peur de rien. Hein. Un bruit soudain à côté d'elle, bon, elle sursaute pas, mais Paulus et Dakota étaient comme ça aussi. Vraiment des chiens bien dans leur peau de chien,
Bien dans leurs
bien
pattes.
dans leurs pattes, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Donc en fait, oui, bah, je suis fière de mes chiens, quoi.
Et tu disais que tu avais eu d'autres moments de fierté avec les uns et les autres. Enfin, j'imagine que c'est.
C'est toujours. Alors si, Dakota, alors je l'avais depuis 6 mois, j'avais l'habitude de passer dans un parc à côté de l'université chez moi. Et il y a un moment où on ne pouvait plus aller tout droit, donc on tournait à droite parce que j'avais touché devant moi pour protéger un à-pic de 2 mètres. Il y avait une grosse pierre. Et puis donc j'y vais avec Dakota que j'avais que depuis 6 mois, donc on pouvait penser que c'était pas encore complètement bien ancré entre nous. Je trouvais que c'était un peu long, et puis je sens sous les pieds que je marche sur l'herbe, donc je m'y connaissais plus du tout. Il y a des gens qui hurlaient Madame, Madame, mais bon, je vais pas m'arrêter parce qu'on crie Madame. Et mon chien Dakota s'est arrêté. Et je lui ai dit, bah, va devant. Et elle s'est couchée devant moi. Et les gens qui criaient Madame, Madame m'ont rattrapé, m'ont un peu trop attrapé par le bras, mais bon, je leur en veux pas. Et en fait, Dakota s'est couchée devant moi parce que la pierre n'était plus à sa place, que j'étais partie tout droit devant et que j'étais sur le point de tomber. Et elle s'est, comme dans les films qu'on voit avec les éducateurs sur les bords du quai, Dakota a fait ça. Elle s'est couchée devant moi, elle m'a bloquée.
C'est ce qu'on appelle la désobéissance.
C'est la désobéissance intelligente.
Voilà, c'est la position qu'ils ont appris, en tout cas, comme tu dis, sur les bords des quais, en principe.
Oui.
Quai de métro ou quai de train, et c'est le Le summum, je dirais, de l'éducation quand même, puisqu'on apprend aux chiens à répondre à un certain nombre de mots, en tout cas.
Oui.
Je dirais pas d'ordre, parce que ça suppose quand même de la jugeote, donc j'appelle plutôt ça des mots.
Oui.
Et il est vrai que pour protéger son maître, quand il y a le vide, il s'arrête, dans un premier cas. Et quand ça marche toujours pas et que, on va dire, le maître insiste, c'est se coucher en plein milieu. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, Dakota, dans ton cas.
Voilà, et Mara m'a fait la même chose sur mon trottoir où je fonce habituellement, où il y avait eu des travaux et il y avait une trappe qui était ouverte devant moi. Mara s'est arrêtée, elle s'est vraiment arrêtée pile, et je lui ai dit devant, et c'est pareil, elle s'est couchée, mais c'était beaucoup plus fluide parce que je m'y attendais.
Mmh.
Et en fait, la trappe était ouverte devant moi, et puis ça faisait quand même un bon mètre de profondeur, c'était avec une canalisation. Sur ce, l'ouvrier est revenu, donc j'ai crié très fort en disant que c'était dangereux et que j'aurais pu tomber. Il m'a dit, mais j'avais mis des chapeaux de gendarme. Alors, c'est très rigolo parce qu'il avait mis des chapeaux de gendarme sur le côté, mais pas dans le sens de marche des piétons sur le trottoir.
D'accord.
Bon, donc, il était revenu et il est revenu un peu vite parce qu'il m'a vu de loin. Mais c'est vrai que Mara sait faire ça aussi, mais que j'ai eu moins peur parce que elle a plus anticipé. Et puis, avec mon expérience d'être guidée par un chien, j'ai senti quand elle bloquait qu'il ne fallait pas que j'insiste.
Mmh.
Et sinon, je suis fière de mes chiens parce que je leur suis reconnaissante de la liberté que le chien me donne. Oui, à chaque fois que je sors, à chaque fois que maintenant Mara me guide, n'a peur de rien, je suis tellement fière d'elle.
Mmh.
C'est des moments de bonheur, le chien guide. Si je vais bien, si je peux m'investir au service des autres, parce qu'il faut être utile dans la vie, c'est parce que le chien me libère en partie de mon handicap. Et puis, se promener avec un beau chien guide, et puis j'ai eu 3 beaux chiens guides, c'est idiot, hein, parce que je ne les vois pas, mais je sais que Paulus, Dakota et Mara, c'est, tous les 3, c'était de beaux chiens, avec un beau regard, des yeux fidèles, une sorte de sourire. Parce qu'on me dit que mes chiens sourient. Moi, je le crois volontiers.
Mmh.
C'est donner une autre image du handicap. Parce que c'est pas marrant d'être handicapé, à part ça.
Oui. Bon, mais en tout cas, je vois que l'heure tourne. Écoute, je te remercie d'avoir pu échanger tout ça avec moi.
Écoute, je suis contente. Parce que donc, je suis la première maîtresse de chien guide, du coup.
Oui, exactement. Alors, j'en ai quelques autres en tête, mais c'était important pour moi, c'était vraiment important qu'on puisse essayer de faire ça dans la continuité, en plus de l'épisode avec Marie.
Bah oui.
Pour qu'on voit bien que, voilà, il y a toute la sphère famille d'accueil sur laquelle je suis un peu plus renseignée, puisque je navigue dans celle-là, mais on navigue pas seul. Si on est famille d'accueil, famille relais, c'est pour vous, quoi, tout simplement. Voilà.
Et alors, encore une dernière chose, oui, que je tenais à dire. C'est très important de vous reconnaître.
Bah, merci en tout cas, hein. On est quand même dans le même univers.
Tout à fait. Et on a quand même un objectif commun, de bien commun, et de faire quelque chose ensemble.
Mmh.
Moi, j'aime bien.
Mais en tout cas, ça fait une bonne conclusion à tous nos échanges. Merci beaucoup.
Merci.
Psst. Toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast? C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chien guides comme toi. Mais par où commencer? Comment passer à l'action à partir de ton idée? Comment enregistrer? Et avec quel matériel? Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast? Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène de Friendship et Florence d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée. Et pour ne pas le faire en solitaire, leur accompagnement Podcastons Ensemble te permettra d'échanger chaque mois en visio avec d'autres podcasteurs comme toi pour t'entraider et te motiver. Et crois-moi, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans l'échange avec d'autres. J'ai d'ailleurs négocié un tarif d'amis rien que pour toi. Tu auras 5% d'office sur la formation avec mon code Estelle5. Toutes les infos sont disponibles sur formationpodcast.podia.com. J'ai hâte d'écouter ton premier épisode très bientôt.